Nous poursuivons ce matin notre parcours apologétique avec un quatrième volet. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans ma vie ? Nous avons jusqu'ici considéré deux questions. En deux parties, Dieu existe-t-il ? Et puis, si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il ? Ces deux premières questions sont certainement parmi les plus difficiles de cette série, en particulier parce qu'elles sont éminemment philosophiques. Mais ce matin, avec le quatrième volet, nous arrivons sur un terrain bien plus terre-à-terre. En effet, nous avons vu la semaine dernière que la question du mal se scinde en deux grands chapitres. Celui du problème philosophique du mal, qui constitue un défi pour penser la foi chrétienne, puisque ce problème philosophique du mal semble rendre incohérente la croyance en un Dieu bon, tout-puissant et souverain. Et puis, deuxième chapitre, celui du problème existentiel du mal, qui constitue cette fois-ci un défi pour vivre la vie chrétienne, puisque Dieu le laisse, le mal, se produire dans notre vie, avec son cortège de souffrances. Ainsi, nous abordons cette question, pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans ma vie. Après avoir réfléchi de façon abstraite à l'objection que le mal constitue pour la foi chrétienne, nous regardons en face le défi existentiel de la présence du mal et de la souffrance dans nos vies. Des vies parfois bouleversées par la présence de la souffrance. Des vies parfois bouleversées par l'intensité de la souffrance. Des vies parfois bouleversées par la durée de la souffrance. La problématique qui va nous intéresser ce matin est donc celle-ci. En tant qu'enfant de Dieu, par la foi en Jésus, il m'arrive d'être confronté à la souffrance, mais aussi au silence de Dieu. Je souffre, je crie à Dieu, et Dieu ne me délivre pas toujours. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans ma vie ? Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes mes demandes de délivrance ? Est-ce qu'il ne se soucie pas de moi ? Comme pour chaque réflexion que nous menons, il y a toujours des présupposés de base que l'on accepte sans les élaborer. Et pour notre réflexion ce matin, ces présupposés sont que Dieu existe, le mal existe et Dieu tolère le mal pour des raisons qui nous échappent. Je vous propose maintenant, dans le point suivant, le point 2 sur la souffrance, de réfléchir dans les grandes lignes à cette réalité de la souffrance dans notre vie. Et la première chose que nous pouvons dire ici, c'est que la souffrance est inéluctable, inévitable. Elle fait partie de la vie humaine. Qui pourrait raisonnablement en douter ? C'est en effet un constat universel, l'homme souffre. Cette réalité de la souffrance inévitable se retrouve bien évidemment dans la sagesse populaire, par exemple. Ainsi, un certain Henri Étienne, au XVIe siècle, écrivait « Au chaudron des douleurs, chacun apporte son écuelle ». Un proverbe danois « Il faut beaucoup souffrir » ou mourir jeune. Et puis une parole biblique, celle d'Éliphaz, au début du livre de Job, « L'homme naît pour souffrir, tout comme les étincelles s'élèvent pour voler. » La deuxième chose que nous pouvons dire au sujet de la souffrance, et elle découle de du premier point, c'est que personne n'échappe à la souffrance. Personne. En effet, qui peut dire, s'il vit suffisamment longtemps, qu'il n'a jamais souffert? Et qui peut raisonnablement penser qu'il ne souffrira jamais? En fait, la souffrance touche tous les êtres humains, sans distinction de sexe, de couleur de peau, d'âge, d'origine, etc. Tous les hommes et toutes les femmes de cette terre connaissent une mesure de souffrance. Bien évidemment, tous ne souffrent pas de la même manière, c'est une évidence. Certains semblent bien mieux lotis que d'autres. Certains semblent plus épargnés que d'autres, mais tous souffrent, tous, d'une manière ou d'une autre, et tôt ou tard. Une des questions difficiles ici concerne ceux que nous pourrions appeler les méchants. Si les méchants étaient les seuls à souffrir sur cette terre, nous trouverions certainement que ça serait justice. En particulier face aux souffrances des innocents, des injustes. Mais ce n'est pas le cas. La mesure de souffrance de quelqu'un n'est pas proportionnelle au mal ou au bien qu'il a fait. Cette réalité fait écho à cette parole du brigand sur la croix qui admettait que sa souffrance et celle de son comparse était juste. Par contre, il se scandalisait par celle de Jésus, de ce juste qui se trouvait à ses côtés. Notons encore pour terminer ce point qu'en réalité, ce raisonnement sur la souffrance des méchants, ce raisonnement nous concerne directement, puisque nous sommes pécheurs. Et que le mal est attaché à notre condition humaine. Qui peut dire qu'il n'a jamais rien fait de mal? La troisième chose que nous pouvons dire au sujet de la souffrance, c'est qu'elle n'épargne pas les chrétiens. C'est logique, du point de vue de la solidarité dans la condition humaine, bien évidemment, c'est logique. Mais du point de vue de la foi, ça peut poser question. Écoutons le témoignage du psalmiste au psaume 88. « Mes yeux sont épuisés à force de souffrir. Je suis malheureux près de la mort. Je suis à bout. » Ou encore le témoignage du prophète Jérémie qui demande à Dieu « Pourquoi ma souffrance est-elle permanente ?» Pourquoi ma souffrance est-elle permanente? Et ici, nous devons nous interroger. Pourquoi Dieu n'épargne-t-il pas ses enfants? Comment comprendre les bénédictions qui leur sont promises à la lumière des souffrances qui sont aussi les leurs? Comment comprendre ce paradoxe? Comment comprendre ce paradoxe d'autant plus qu'ils souffrent aussi de souffrances bien spécifiques que le non-croyant ne connaît pas. En effet, la vie de la foi, en plus des souffrances communes à tous les hommes, est jalonnée de souffrances injustes liées à la foi et qui sont annoncées dans l'Écriture. Ainsi, Jésus dira à ses disciples qu'ils auront des tribulations dans le monde. Parce que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ils seront haïs, ils seront persécutés, comme l'a été leur maître. Ainsi dit l'apôtre Pierre, Puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous de la même pensée. Et puis l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, en parlant des tribulations, nous sommes destinés à cela, dit-il. Et il dit encore dans Actes 14, verset 22, que c'est au travers de beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il est indéniable qu'il y a des souffrances spécifiques à la suivance du Christ qui s'ajoutent à celles qui sont le lot commun de toute l'humanité. Mais alors, comment concilier tout cela avec les bénédictions qui nous sont promises ? En effet, à plusieurs endroits dans l'Écriture, Dieu promet à celui qui le suit fidèlement qu'il sera béni. Ainsi, par exemple, l'auteur des Proverbes dit que celui qui obéit à Dieu en pratiquant la sagesse allonge la durée de sa vie. Que celui qui révère le Seigneur et se détourne du mal s'assure une bonne santé physique. Que celui qui honore le Seigneur en lui donnant une part de ses biens connaît l'abondance. Comment faut-il comprendre ces paroles et toutes les autres qui abondent dans le même sens ? À l'évidence, en déduire que la souffrance n'atteindra jamais le croyant est une mauvaise compréhension des choses qui, en tout cas, ne se vérifie pas dans la réalité. Et nous verrons plus loin quelle articulation nous pouvons proposer à cette difficulté. La quatrième chose que nous voulons dire, que nous pouvons dire au sujet de la souffrance, concerne son origine. Elle vient de la rupture de l'homme avec son Créateur. La Bible est claire à ce sujet. Même si elle n'explique pas tout, elle nous dit que la souffrance dans le monde est la conséquence de la désobéissance de nos premiers parents. Elle fait partie du jugement de Dieu qui a fait suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Nous lisons dans Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19, Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La souffrance dans le monde est donc la conséquence de la rupture entre l'être humain et son Créateur. La chute de l'homme, comme on l'appelle, a eu des conséquences néfastes pour la nature et pour l'être humain. Et ainsi, nous vivons dans un monde déchu, c'est-à-dire un monde qui n'est plus ce qu'il était à l'origine, un monde qui a été profondément marqué, impacté, affecté par l'intrusion du péché. Un monde où la souffrance de la nature et des hommes renvoie en permanence à ce premier jugement de Dieu, à la désobéissance d'Adam et Ève, à l'entrée du péché dans le monde. Et à ce sujet, un certain auteur, P.J. Lindell, dans son livre « Le mystère de la souffrance », écrit ceci. « J'accepterai la souffrance comme appartenant légitimement à ce monde où je vis. Ce n'est pas un accident. Il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une mutation regrettable. La souffrance est dans le monde parce qu'elle a le droit d'y être. Le mal dans la nature et la souffrance sont toujours le signe visible du non que Dieu a prononcé sur la création et sur l'homme quand l'homme, par le péché, s'est rendu étranger à Dieu. Aussi longtemps que dure la terre, elle connaîtra la souffrance. Dieu a décidé qu'il en serait ainsi. Il est donc juste qu'il en soit ainsi. La cinquième et dernière chose que je voudrais dire au sujet de la souffrance prolonge et accentue ce qu'on vient de dire, à savoir que la souffrance ne vient pas de Dieu. Je le précise parce que c'est une accusation très fréquente qui est portée contre Dieu, qui est portée contre le bon Dieu, n'est-ce pas ? La Bible affirme que le mal et donc la souffrance ne faisait pas partie de l'ordre créé par Dieu. Tout était très bon, avait constaté Dieu, à la fin de son œuvre créatrice, jusqu'à ce qu'Adam et Ève désobéissent. Il est donc évident que la souffrance ne vient pas de Dieu. Et ce, malgré ce que certaines paroles bibliques pourraient nous laisser penser. Je pense ici à des paroles comme celles que nous trouvons au début du livre de Job. « Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur ?» Ou alors cette parole du livre des Lamentations de Jérémie, « Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas et le malheur et le bonheur ?» Affirmer que la souffrance ne vient pas de Dieu est vrai à l'origine, mais c'est vrai aussi aujourd'hui. En effet, dans la très grande majorité des cas, la souffrance de ce monde est directement imputable à l'homme. Elle est imputable à son orgueil, à son égoïsme, à sa cupidité, à son arrogance, à ses passions, et j'en passe. Elle est imputable à son péché, tout simplement. En effet, qui est responsable quand une famille est fauchée à un arrêt de bus par un conducteur ivre ? Qui est responsable quand une bagarre est déclenchée dans un stade de foot parce que quelqu'un a crié des insultes racistes ? Qui est responsable quand une inondation fait des victimes parce qu'on s'est entêté à construire en zone inondable par cupidité ? Qui est responsable quand des êtres humains meurent dans une guerre insensée déclenchée par un dictateur ? Qui est responsable ? Nous pourrions continuer ainsi toute la journée, à citer des exemples qui montrent que très souvent, pour ne pas dire toujours ou presque, c'est l'homme qui est responsable. Bien sûr, en plus de la responsabilité de l'homme, il y a aussi celle de Satan, qui à l'évidence est responsable de bien des souffrances dans notre monde. Et puis il y a aussi la part des catastrophes naturelles. Qui est responsable ? Rappelons ici que la nature souffre, elle aussi, des conséquences de la chute, des conséquences du péché de l'homme. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8 au verset 20 que la création a été soumise à la vanité, qu'elle a été soumise au pouvoir de la fragilité, traduit la Bible du Semeur. La nature fonctionne différemment après la chute de l'homme. Notons encore que les catastrophes naturelles notons concernant les catastrophes naturelles que bien souvent, l'homme aggrave les choses par les décisions mauvaises qu'il prend en amont, comme quand ils décident de construire en zone sismique avec des matériaux inadaptés. Et là aussi, nous pourrions passer la journée à citer des exemples qui corroborent cela. Une dernière chose. Beaucoup voient derrière les catastrophes naturelles qui se produisent des jugements de Dieu. Est-ce le cas ? Notons ici que Jésus conteste cette idée. Jésus conteste ce lien de causalité directe et systématique entre le péché et la souffrance. Et il le fait, par exemple, dans l'épisode de l'aveugle-né, dans Jean 9. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit ainsi ? Demandaient les disciples. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez que Jésus refuse ce raisonnement. Que dit-il ? Jean 9, verset 3, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous voient, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Et puis, dans un autre épisode des Évangiles, les gens faisaient un lien entre deux événements terribles qui s'étaient produits, qu'on leur avait rapportés. Ils faisaient le lien entre ces événements et le péché de leurs victimes. Ça se trouve dans Luc au chapitre 13. Je lis les 5 premiers versets. « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Soulignons ici que Jésus s'oppose clairement à cette idée d'une punition, d'un lien systématique entre un drame et le péché. En fait, ce qu'il dit, c'est que la souffrance des uns doit servir d'avertissement aux autres. Ce qui veut dire qu'il nous faut faire preuve de beaucoup de prudence et de discernement dans les conclusions que nous pouvons tirer de telle ou telle situation en lien avec un éventuel jugement de Dieu. S'il peut arriver que Dieu juge, nous n'allons pas l'exclure, il est souverain. La Bible nous rapporte des épisodes où clairement Dieu a jugé le péché. Nous devons nous garder de penser que nous pouvons discerner quand Dieu le fait ou quand il ne le fait pas. Et nous devons nous garder de l'affirmer à tout va. Dieu n'est donc pas responsable de la souffrance dans le monde, pour la très 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 grande part. Mais à l'évidence, il la permet. Il la permet. Et cette permission de Dieu, c'est ce qui pose question. Elle est au cœur de notre problématique. Et nous allons l'aborder maintenant dans le troisième point, aborder cette difficulté. Troisième point, Dieu se sert de la souffrance. Alors soyons tout à fait clairs. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Pourtant, une fois que la souffrance est là, une fois que la souffrance est là, Dieu va s'en servir pour accomplir ses desseins. Ce point est extrêmement important. Une fois que la souffrance est là. Et nous parlons ici de la grandeur de Dieu. Nous parlons ici de sa souveraineté et nous parlons ici de sa toute-puissance qui font qu'il n'est jamais pris au dépourvu par le mal et la souffrance et qu'il peut même s'en servir pour en tirer du bien. Alors continuons à être clairs. Si Dieu peut tirer du bien de ce qui est mauvais, si Dieu peut tirer du bien de ce qui est mauvais, cela ne justifie cependant jamais le mal, ni ne le rend moins mauvais. Le mal est toujours mauvais, toujours. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut faire concourir toute chose, pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, c'est à l'évidence aussi le mal, aussi ce qui est mauvais, aussi la souffrance. Une fois que ces choses sont là, par la désobéissance des créatures libres que Dieu a créées. Que peut-on dire au sujet de la souffrance dont Dieu peut se servir? Dans quel but Dieu se s'en sert-il parfois? La Bible nous donne pas mal de versets, pas mal de pistes, je vais évoquer les plus importantes, je ne vais pas les développer, je vais simplement à chaque fois citer un verset, il y aurait bien évidemment beaucoup de choses à dire, c'est forcément un peu sommaire, mais on ne peut pas tout dire en une fois. Premièrement, Dieu peut se servir de la souffrance pour purifier notre foi. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans ce texte bien connu du début de sa première épître, « Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Par l'épreuve, Dieu transforme notre foi. Par le feu de l'épreuve, par le feu de la souffrance, Dieu purifie notre foi comme le feu purifie l'or de ses scories. Deuxièmement, Dieu peut se servir de la souffrance pour produire la sainteté dans nos vies. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, « Nos pères en effet nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. » Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Troisièmement, Dieu peut se servir de la souffrance pour engendrer la patience. Comme le dit l'apôtre Jacques, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Quatrièmement, Dieu, Dieu peut se servir de la souffrance pour nous protéger de l'orgueil et pour nous faire vivre de sa grâce. C'est le fameux texte de l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. À cause de l'excellence de ces révélations, dit Paul, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cinquièmement, Dieu se sert de la souffrance pour produire la compassion dans notre vie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Il est évident au travers de ces quelques textes, et il y en aurait encore eu d'autres à citer, que Dieu se sert effectivement de la souffrance en permettant l'épreuve dans la vie de ses enfants pour nous faire grandir en lui, pour nous rapprocher de lui et pour nous rapprocher aussi des autres. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut dire toujours dans sa deuxième lettre aux Corinthiens ceci. Ah ben ça y était. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction, légère à la lumière de l'éternité. Parfois, ce n'est pas léger. Hein. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Voilà notre espérance. Voilà ce que nous devons nous rappeler quand nous sommes dans l'épreuve. Nos moments d'affliction produisent en nous et pour nous, par la grâce de Dieu, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Oui, par l'épreuve, Dieu attire à lui. C.S. Lewis, qu'on connaît en particulier pour les chroniques de Narnia, dans un livre intitulé « Le problème de la souffrance », dit ceci. Dieu murmure à notre oreille dans nos joies et il parle à notre conscience, mais dans nos souffrances, il crie. C'est son mégaphone pour réveiller un monde dur d'oreilles. En effet, par l'épreuve et la souffrance, beaucoup, peut-être vous aussi, ont trouvé Dieu, se sont rapprochés de Dieu. Parce qu'il est vrai que dans la facilité, nous oublions Dieu. Nous nous détournons de Dieu. Voilà un extrait d'une revue ancienne, mais qui est ressortie ces dernières années, la revue Ictus, que j'ai trouvée sur le blog d'Évangile 21. Et voilà ce que je lis. Moïse prédit qu'en devenant gras et replet, Israël en viendra à regimber contre Dieu. Il ne devrait pas en être ainsi. Quand notre situation est florissante, nous devrions plein de reconnaissance louer Dieu avec d'autant plus de ferveur. Hélas, nous sommes souvent si ingrats et si frivoles que nous avons besoin d'une épreuve pour nous souvenir de l'Éternel. Le petit enfant aime à folâtrer de droite et de gauche tant que tout va bien pour lui, et même lorsque sa mère l'appelle, il n'est pas pressé d'accourir. Mais s'il tombe et se fait mal, immédiatement, il se précipite auprès d'elle pour se faire consoler. Ainsi, l'épreuve est souvent chez nous ce qui déclenche ce désir de nous rapprocher du Seigneur Jésus. Que de gens se sont convertis à la suite d'une maladie, d'un deuil, d'une déception. Combien plus nombreux encore ont retiré d'un malheur une bénédiction spirituelle. Combien qui pourraient dire comme Ézéchias, mes souffrances sont devenues mon salut. Faut-il pour autant se réjouir, comme semble l'indiquer le texte de Jacques, se réjouir dans la souffrance, se réjouir dans l'épreuve? Jacques qui dit, souvenez-vous mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Soyons très clairs, nulle part, nous ne sommes appelés à être masochistes, nous ne sommes appelés à aimer la souffrance. Ce qui doit nous réjouir, ce n'est pas la souffrance, mais ce qu'elle produit en nous. Le bienfait que Dieu va en faire ressortir. Non, Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Non, la souffrance n'est jamais un but en soi. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, dans sa toute-puissance, la permet. Et une fois qu'elle est là, il s'en sert pour le bien de ses enfants, pour le bien éternel de ses enfants. Il reste une question importante à aborder, c'est celle de la délivrance de Dieu. Et ensuite, je conclurai. Qu'en est-il de la délivrance que Dieu promet à ses enfants? David, par exemple, au psaume 34, verset 20, dit que le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Là aussi, nous pourrions citer bien des textes. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi alors certaines de mes prières ne sont-elles pas exaucées? En effet, nous savons tous par expérience que tôt ou tard, nous serons confrontés à l'apparent silence de Dieu. Nous serons confrontés à la délivrance qui ne vient pas. Et nous avons certainement tous en tête des exemples de personnes pour lesquelles nous avons prié avec ferveur, avec persévérance, avec foi, mais qui sont mortes quand même, ou qui sont restées malades. Peut-être même est-ce le cas d'une prière que nous avons faite pour nous-mêmes. Pourquoi Dieu ne délivre-t-il pas toujours ses enfants? Pourquoi n'exauce-t-il pas toutes mes demandes de délivrance? Que faire, que comprendre quand Dieu ne fait rien, ou en tout cas pas ce que je lui ai demandé? Il faut confesser qu'il y a ici une part de mystère. Une part de mystère qu'il faut accepter et saisir par la foi. Qu'il faut accepter et saisir par la foi sur quelle base? Sur la base de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Sur la base que Dieu a toujours pour viser mon bien éternel. Sur la base que ses voies ne sont pas mes voies. Sur la base que sa sagesse est plus grande que la mienne. Sur la base que quoi qu'il permette dans ma vie, son amour pour moi dure éternellement. Sur la base que les afflictions qu'il permet ont un poids éternel de gloire. Sur la base que sa volonté est toujours meilleure, même quand je ne la comprends pas. Même quand cela signifie que je dois garder mon écharde dans la chair, sur la base que sa grâce est toujours suffisante, sur la base que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Et j'aurais pu ici, bien évidemment, étayer tout ce que je viens de dire avec d'innombrables versets bibliques. Non, Dieu ne délivre pas toujours, en tout cas pas au sens où il supprime l'épreuve de ma vie. Mais il délivre toujours au sens qu'il nous porte dans l'épreuve, qu'il nous soutient, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne sa paix et qu'il nous donne sa grâce qui est toujours pleinement suffisante. Et puis parfois aussi, n'oublions pas de le dire, Dieu délivre littéralement. Et nous pouvons toujours faire monter vers lui cette demande de délivrance quand nous sommes dans l'épreuve. C'est légitime. Et d'ailleurs, c'est même la volonté de Dieu que nous le fassions. Il désire que nous lui fassions connaître tous nos besoins. Ceci dit, il faudrait sans doute que nous arrivions toujours à formuler nos requêtes à Dieu dans les mots de la prière de Jésus à Gethsémané. Souvenez-vous de cette prière, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, on peut remplacer ça par l'épreuve et la souffrance qu'on traverse, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et pour prier ainsi, je dois être absolument convaincu de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12 au sujet de la volonté de Dieu, qu'elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et le vrai défi pour nous, écrit Michael Razzano dans ce livre que j'avais beaucoup cité les fois précédentes, Une foi, des arguments, une apologétique pour tous, il dit notre vrai défi est d'accepter cette volonté avec confiance et non pas seulement avec résignation. Il est temps de conclure. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans ma vie ? Nous avons esquissé quelques pistes de compréhension possibles et j'aimerais terminer en mettant l'accent sur une chose, sur le fait que le Fils de Dieu lui-même a connu la souffrance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, chapitre 5, versets 7 à 9, « C'est lui, en parlant de Jésus, qui dans les jours de sa chair offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Quel revirement de situation ! Jésus a souffert. Il est même, écrit le prophète Ésaïe, l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais le plus beau et le plus incroyable, c'est que Dieu a voulu que ce soit par ses meurtrissures, par ses blessures, par ses souffrances, que nous soyons guéris. Guéris de nos péchés, et guéri de toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire le mal, la souffrance, la maladie, etc. Alors bien sûr, pour l'heure, nous n'en voyons pas encore tous les fruits, et nous attendons pour cela le retour du Seigneur. Nous attendons pour cela les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera. Nous attendons ce jour glorieux où la mort ne sera plus, et où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses, celles qui ont été affectées par le péché, parce que les premières choses auront disparu. Oui, ce jour glorieux arrive avec la venue du Seigneur. Et en ce jour glorieux, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. En attendant ce jour glorieux, il nous faut encore vivre et parfois souffrir ici-bas. Mais nous pouvons le faire dans la confiance et dans l'assurance que Dieu nous comprend parfaitement. Parce que nous avons en Jésus un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses, ayant été lui-même tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Vous connaissez ce texte de l'Épître aux Hébreux. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître termine en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » En attendant ce jour glorieux, oui, il nous faut encore vivre et parfois souffrir ici-bas, mais nous pouvons le faire, non seulement dans la confiance et dans l'assurance que Dieu nous comprend, mais aussi dans l'espérance de tout ce que Dieu a promis. Dans l'espérance parce que nous avons les promesses de Dieu et dans l'espérance parce que Jésus a vaincu la souffrance. Comme l'écrit Paul Claudel, cité par Alfred Kuhn dans le livre que j'ai déjà mentionné, un très beau texte, et il dit ceci. Il y a au moins quelque chose que nous ne pouvons pas dire de Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que de souffrir. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer. Il est venu la remplir de sa présence. Oui, il est venu l'assumer, la transcender, la glorifier. Et par sa résurrection, nous avons nous assurer que l'acceptation de la croix est le gage de notre délivrance. C'est pourquoi en attendant dans nos souffrances, dans nos fatigues, dans nos doutes, dans nos incompréhensions, nous pouvons venir trouver le repos en Jésus. Nous pouvons venir pour obtenir miséricorde. Nous pouvons venir pour trouver grâce en vue d'un secours opportun. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Puissions-nous chacun l'expérimenter jour après jour, et tout particulièrement quand nous sommes dans la souffrance. Amen.